Chapitre 2. Le premier de la classe et les Bad Boys. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Aldous Huxley. 1. Painted black. No surprises. 1. Dès l'entrée du campus, l'orchestre de l'école accueillait les visiteurs en reprenant des refrains des Stones, de Radiohead et de U2. La musique, aussi atroce qu'entraînante, vous accompagnait jusqu'au cœur du lycée, la place des Marronniers, où devaient se dérouler les réjouissances de la matinée. À cheval sur plusieurs communes, dont Antibes et Valbonne, et souvent présentée comme la Silicon Valley française, Sophia Antipolis était un écrin de verdure au sein d'une côte d'azur trop bétonnée. Des milliers de start-up et de grands groupes spécialisés dans des secteurs de pointe avaient élu domicile sur ces 2000 hectares de pinèdes. L'endroit avait des atouts pour attirer les cadres du monde entier. Un soleil radieux les trois quarts de l'année, la proximité de la Grande Bleue et des stations de ski du Mercantour, de nombreux équipements sportifs et des écoles internationales de qualité, dont le lycée Saint-Exupéry était justement le fer de lance, le sommet de la pyramide éducative des Alpes-Maritimes, l'établissement dans lequel chaque parent espérait pouvoir un jour inscrire sa progéniture, confiant dans l'avenir promis par la devise de l'école « Scientia potestas est ». Après avoir dépassé la guérite du gardien, je longeai le complexe administratif et la salle des professeurs. Construit au milieu des années 1960, les bâtiments actuels de la cité scolaire commençaient à vieillir, mais l'ensemble du site restait exceptionnel. L'architecte qui l'avait conçu avait intelligemment tiré parti du cadre naturel unique du plateau de Valbonne. En ce samedi matin, l'air y était doux et le ciel bleu turquin. Entre pinèdes et garrigues, entre parois rocheuses et reliefs accidentés, les cubes et les parallélépipèdes d'acier, de béton et de verre s'intégraient harmonieusement au paysage vallonné. En contrebas, autour d'un grand lac et à demi caché par les arbres, s'élevaient de petits immeubles colorés de deux étages, les bâtiments de l'internat, dont chaque unité portait le nom d'un artiste ayant séjourné sur la Côte d'Azur. Pablo Picasso, Marc Chagall, Nicolas de Staël, Francis Scott Fitzgerald, Sidney Bechet, Graham Greene. Entre ma 15e et ma 19e année, j'avais vécu ici, dans le logement de fonction qu'occupaient alors mes parents. Les souvenirs de cette époque étaient encore vivaces. En particulier l'émerveillement que je ressentais chaque matin en me réveillant face à la forêt de pins. De ma chambre d'adolescent, on avait la même vue d'enfer que je contemplais aujourd'hui. La surface étincelante du lac, son ponton en bois et ses hangars à bateaux. Après deux décennies passées à New York, j'avais fini par me faire croire que je préférais le ciel bleu électrique de Manhattan au chant du Mistral et des cigales, l'énergie de Brooklyn et de Harlem à l'odeur des eucalyptus et de la lavande. Mais au fond, est-ce toujours vrai? Me demandai-je en contournant l'Agora, un bâtiment de verre construit au tout début des années 1990 autour de la bibliothèque et qui abritait plusieurs amphithéâtres ainsi qu'une salle de cinéma. Puis j'arrivais devant les salles de classe historiques, des constructions en briques rouges d'influence gothique qui rappelaient certaines universités américaines. Ces bâtisses étaient totalement anachroniques et en décalage avec la cohérence architecturale de l'ensemble. Mais elles avaient toujours fait la fierté de Saint-Ex, donnant à l'école une patine Ivy League et aux parents d'élèves la fierté d'envoyer leurs rejetons dans le Harvard local.
« Alors, Thomas de Galley, on cherche l'inspiration pour son prochain roman ?»
2. La voix derrière moi me surprit et je fis volte-face pour découvrir le visage hilar de Stéphane Pianelli. Cheveux longs, barbichette de mousquetaire, lunettes rondes à la John Lennon et sac besace porté en bandoulière. Le journaliste de Nice Matin avait la même dégaine que lorsqu'il était étudiant. Seule concession à l'époque, le t-shirt qu'il arborait sous son gilet sans manches de reporter était orné du célèbre FI, le symbole de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon.
« Salut Stéphane », répondis-je en lui serrant la main.
Nous fîmes quelques pas ensemble. Pianelli avait le même âge que moi, et comme moi, c'était un enfant du pays. Nous avions été dans la même classe jusqu'à la terminale. Je me souvenais de lui comme d'une grande gueule, un brillant orateur avec un sens du syllogisme qui mettait souvent en difficulté nos enseignants. C'était l'un des rares élèves du lycée à avoir une conscience politique. Après le bac, Alors que ses résultats lui permettaient de suivre une prépa Sciences Po à Saint-Aix, il avait préféré continuer sa scolarité à la faculté de lettres de Nice. Une fac que mon père considérait comme une usine à chômeurs, et ma mère, plus radicale encore, comme un ramassis de branleurs gauchistes. Mais Pianelli avait toujours assumé son côté frondeur. À Carlonne, le campus de lettres, il avait louvoyé entre MNEF et MJS, et connu sa première heure de gloire un soir de printemps 1994, lors de l'émission de France 2 « Demain les jeunes ». Présenté par Michel Field, le direct avait donné la parole pendant plus de deux heures à des dizaines d'étudiants hostiles au CIP, le fameux SMIC jeune que cherchait à leur imposer le gouvernement Balladur. J'avais revu l'émission récemment sur le site de l'INA et j'avais été frappé par l'aplomb de Pianelli. On lui avait donné le micro à deux reprises et il s'en était servi pour interpeller et envoyer dans les cordes des personnalités aussi aguerries qu'Alain Madelin et Bernard Tapie. Une vraie tête de mule qui ne se laissait impressionner par personne.
« Ton avis sur l'élection de Macron ?»
me demanda-t-il tout à trac. Il était donc resté intarissable sur la politique.
« C'est une bonne nouvelle pour les gens comme toi, n'est-ce pas ?»«
Les écrivains ?»«
Non, les sales riches !»
répondit-il, l'œil brillant. Pianelli était chambreur, souvent de mauvaise foi, mais je l'aimais bien quand même. C'était le seul élève de Saint-Aix que j'avais revu fréquemment, car il m'interviewait pour son journal chaque fois que je sortais un roman. À ma connaissance, il n'avait jamais eu l'ambition de faire carrière dans la presse nationale. Il préférait rester un journaliste tout-terrain, un couteau suisse, comme il se qualifiait lui-même. À Nice Matin, il pouvait écrire sur tout ce qu'il voulait, la politique, la culture, la vie de la cité, et il appréciait cette liberté au-delà de tout. S'assumer comme un chasseur de scoop à la plume redoutée ne l'empêchait pas de garder une certaine objectivité. Je lisais toujours avec intérêt ses comptes rendus de mes romans, car il savait lire entre les lignes. Ses articles n'étaient pas systématiquement élogieux, mais même lorsqu'il avait des réserves, Pianelli n'oubliait pas que derrière un roman, et on pouvait dire la même chose d'un film ou d'une pièce de théâtre, se trouvaient souvent des années de travail, de doutes, de remise en question que l'on pouvait critiquer, mais qu'il était cruel et vaniteux d'exécuter en quelques lignes. Le roman le plus médiocre a sans doute plus de valeur que la critique qui le dénonce comme tel. M'avait-il d'ailleurs confié un jour, en adaptant à la littérature la célèbre formule d'Anton Ego, le critique gastronomique du film Ratatouille.
« Blague à part, qu'est-ce que tu viens faire ici, l'artiste ?»
En donnant l'impression de ne pas y toucher, le journaliste reniflait le terrain, lançait des perches et allait me travailler au corps. Il connaissait des bribes de mon passé. Peut-être sentait-il ma nervosité, alors que je triturais dans ma poche les lunettes jumelles de celles de Vinca, et la menace que l'on m'avait adressée un quart d'heure plus tôt. Ça ne fait jamais de mal de revenir vers ses racines, non?
Avec l'âge, on... T'en pas atteint,
me coupa-t-il en ricanant.
Cette réunion d'anciens élèves, c'est tout ce que tu détestes, Thomas. Regarde-toi avec ta chemise Charvet et ta Patek Philippe. Ne me fais pas croire que t'as pris un avion depuis New York pour venir chanter le générique de Goldorak en bouffant des malabars avec des mecs que tu méprises.
Là, tu te trompes. Je ne méprise personne. Et c'était la vérité. Le journaliste me dévisagea, sceptique. Imperceptiblement, son regard avait changé. Ses yeux brillaient comme s'il avait ferré quelque chose.
« J'ai compris »,
finit-il par me dire en hochant la tête.
« Tu es venu ici parce que tu as lu mon article ?»
Sa question me coupa la respiration comme s'il venait de me balancer un direct à l'estomac. Comment pouvait-il être au courant ?« De quoi tu parles, Stéphane ?»
« Ne fais pas l'innocent !»
J'affectai de prendre un ton léger. J'habite à Tribeca. Le New York Times que je lis en buvant mon pâte à feuilles de chou local. À quel article fais-tu allusion ? À celui qui annonçait les 50 ans du Bahut ? À voir sa grimace et ses sourcils froncés, nous ne parlions pas de la même chose. Mais mon soulagement fut de courte durée, car il me balança. Je fais allusion à l'article sur Vinca Rockwell. Cette fois, la surprise me figea.
Donc, c'est vrai. T'es pas au courant,
conclut-il.
Mais au courant de quoi, bordel ?
Pianelli hocha la tête et sortit son bloc-notes de sa besace.
Il faut que j'aille bosser, dit-il alors que nous arrivions sur la Grand Place. J'ai un article à écrire pour la feuille de chou locale, moi. Attends, Stéphane !
Content de son effet, le journaliste m'abandonna en m'adressant un petit signe de la main.
« On se reparle plus tard !»
Dans ma poitrine, mon cœur battait la chamade. Une chose était certaine. Je n'étais pas au bout de mes surprises. 3. La place des marronniers vibrait au rythme de l'orchestre et des discussions en petits groupes qui allaient bon train. S'il y avait bien eu des arbres majestueux ici autrefois, ils avaient depuis longtemps été décimés par un parasite. La place avait gardé son nom, mais était à présent plantée de palmiers des Canaries, dont la silhouette gracieuse évoquait les vacances et le farniente. Sous de grandes tentes en drap écru, on avait dressé un buffet, installé des rangées de chaises et tendu des guirlandes fleuries. Sur l'esplanade, noire de monde, un balai de serveurs en canotiers et marinières s'affairait à ravitailler les invités en boissons. J'attrapai une coupe sur un plateau, y trempai mes lèvres et balançai presque immédiatement la mixture dans un bac à fleurs. En guise de cocktail maison, la direction n'avait rien trouvé de mieux que de proposer une eau de coco dégueulasse mélangée à du iced tea au gingembre. Je m'approchai du buffet. Là encore, on avait visiblement opté pour une version light des agapes. On se serait cru en Californie ou dans certains endroits de Brooklyn où sévissait le règne du healthy. Oubliez les farcis niçois, les beignets de fleurs de courgette et la pissaladière de Veggiano. Il n'y avait que de tristes légumes en tranches, des verrines à la crème allégée et des toasts au fromage certifiés sans gluten. Je m'éloignais des tréteaux pour m'asseoir en haut des grandes marches en béton ciré qui encerclaient une partie de la place façon auditorium. Je chaussais mes lunettes de soleil et, à l'abri depuis mon poste d'observation, je contemplais mes condisciples avec curiosité. Ils se congratulaient, se donnaient des tapes dans le dos, s'embrassaient, se montraient les plus belles photos de leurs bambins ou de leurs ados, s'échangeaient leurs mails, leurs numéros de portable, s'ajoutaient à leur liste d'amis sur les réseaux sociaux. Pianelli n'avait pas tort. J'étais extérieur à tout ça. Incapable même de faire semblant. D'abord parce que je n'éprouvais aucune nostalgie envers mes années lycées. Ensuite parce que j'étais fondamentalement un solitaire, ayant toujours un livre dans la poche, mais pas de compte Facebook. Un rabat-joie pas très adapté aux attentes d'une époque adepte des boutons like. Enfin parce que le temps qui passe ne m'avait jamais angoissé. Je n'avais pas flippé lorsque j'avais soufflé mes 40 bougies, ni quand des fils d'argent avaient commencé à fleurir sur mes tempes. Pour être honnête, j'ai même été impatient de vieillir. Parce que cela signifiait mettre de la distance avec un passé qui, loin d'être un paradis perdu, m'apparaissait comme l'épicentre d'un drame que j'avais fui toute ma vie. 4. Première constatation en scrutant les anciens élèves. La plupart de ceux qui avaient fait le déplacement évoluaient dans ces milieux aisés où l'on veillait à ne pas trop prendre de poids. La calvitie, par contre, était le fléau numéro un chez les hommes, n'est-ce pas, Nicolas Dubois ? Lui avait raté ses implants. Alexandre Muscat essayait de cacher sa tonsure sous une longue mèche rabattue sur le haut de son crâne. Quant à Romain Roussel, il avait carrément choisi de se raser la tête. J'étais agréablement surpris par ma mémoire. Parmi les invités de ma génération, je pouvais mettre un nom sur presque tous les visages. De loin, c'était drôle à regarder. Parfois même fascinant, tant pour certains, l'événement semblait avoir un goût de revanche sur le passé. Manon Agostini, par exemple. La lycéenne ingrate et timide était devenue une jolie femme qui s'exprimait avec assurance. Christophe Mirkovitch avait subi la même métamorphose. Le nerd, comme on ne disait pas encore à l'époque, plus rien du souffre-douleur acnéique et lunaire que j'avais gardé en mémoire, et j'en étais ravi pour lui. À l'américaine, il étalait sa réussite sans complexe, vantait les mérites de sa Tesla, parlait anglais avec sa petite amie de 20 ans, sa cadette, qui captait beaucoup de regards. Éric Lafitte, en revanche, avait bien morflé. Je m'en souvenais comme l'incarnation d'un demi-dieu, une sorte d'ange brun, Alain Delon dans plein soleil. Aujourd'hui, Éric the King était devenu un bonhomme triste et ventripotent, au visage grêlé, plus proche d'Homer Simpson que de l'acteur de Rocco et ses frères. Cathy et Hervé Le Sage étaient venus main dans la main. Ils étaient sortis ensemble en première S et s'étaient mariés à la fin de leurs études. Cathy, diminutif donné par son mari, s'appelait en réalité Catherine Lanneau. Je me souvenais de ses jambes sublimes, qu'elle avait sans doute toujours, même si elle avait troqué sa mini-jupe écossaise contre un tailleur pantalon, et de l'anglais parfait, très littéraire, qu'elle parlait alors. Je m'étais souvent demandé comment une fille pareille avait pu tomber amoureuse d'Hervé Le Sage. Surnommé Régis, c'était la grande époque de « Les nuls, l'émission » et de leur mantra « Régis est un con ». Hervé avait un physique quelconque, un petit poids dans la tête, lançait des remarques malvenues, posait au prof des questions à côté de la plaque et surtout ne semblait pas se rendre compte que sa copine avait 100 fois plus de classe qu'il n'en aurait jamais. 25 ans plus tard, avec son blouson en daim et sa mine satisfaite, Régis avait toujours l'air aussi con. Pour aggraver son cas, il était venu avec une casquette du PSG. No comment. Mais question garde-robe, c'était Fabrice Fauconnier qui détenait la palme. Pilote de ligne à Air France, Faucon arborait son uniforme de commandant de bord. Je le regardais parader au milieu des chevelures blondes, des talons hauts et des seins refaits. L'ancien beau gosse ne s'était pas laissé aller. Sa carrure restait athlétique, mais sa tignasse argentée, son regard insistant et sa vanité évidente lui collaient déjà l'étiquette de vieux beau. Quelques années auparavant, je l'avais croisé sur un vol moyen courrier. Comme si j'avais encore 5 ans, il avait cru me faire plaisir en m'invitant dans le cockpit pour la phase d'atterrissage.